Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Alpinum, un théâtre d'émerveillement, par Carole Ouellette, paru dans Quatre temps. En circulant dans l'Alpinum du Jardin botanique, j'imagine que je suis aux premières loges d'un théâtre où les massifs montagneux et les plaines onduleuses tapissent le sol d'une moquette multicolore. Remarquablement adaptées au climat nordique, les plantes alpines transforment le paysage d'hiver en un spectaculaire jardin quand arrive la belle saison. Une promenade au jardin alpin est une invitation au voyage et une occasion de découvrir ces plantes uniques qui, peu importe où elles se situent dans la zone circumpolaire, ont tendance à adopter des caractéristiques similaires. C'est par exemple le cas de la camarine noire, qui pousse en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, et qui peut résister à des épisodes de gel en plein mois de juillet dans son milieu naturel. C'est impressionnant de voir comment un peu de chaleur suffit pour mettre la toundra en fleur. S'émouvoir de la vigueur des plantes. Pour assurer leur survie dans des milieux inhospitaliers, au sol pauvre en nutriments, aux froids implacables, aux puissants vents d'hiver et à la lumière intense du soleil d'été, les plantes adoptent plusieurs stratégies que je trouve fascinantes. Lorsque la période de croissance est brève, par exemple, une plante ne peut se permettre de pousser trop en hauteur. La fabrication de bois, élément requis pour qu'un arbre ait la rigidité nécessaire à une croissance verticale, nécessite en effet beaucoup d'énergie. Cela favorise la formation de plantes rampantes ou tapissantes, comme le saule arctique, petit arbuste rampant le plus nordique du monde qui pousse bien au-delà de la limite des arbres. La plante réservera plutôt son énergie pour produire les éléments essentiels à sa survie, comme ses feuilles et son système racinaire. Une étonnante adaptation. Le jardin alpin nous offre la possibilité d'admirer plusieurs spécimens et de nous émouvoir devant ce perpétuel combat pour la survie. Ingénieuse nature. Au jardin botanique, comme dans la nature, sous plusieurs centimètres de neige, la température du sol est plus élevée de quelques degrés que l'air ambiant, ce qui permet aux plantes de commencer leur croissance avant la fin des gels printaniers. Petites, charnues, duveteuses, cireuses ou piquantes, leurs feuilles seront serrées les unes contre les autres, en rosette ou en coussinet, pour lutter contre le froid et la déshydratation. Rien de plus beau, de plus facile, de plus rapide que la nature. Rien ne manque à ses inventions et rien n'y est superflu. Léonard de Vinci. Au ras du sol, elles évitent les assauts du vent et forment des tapis denses, retenant l'humidité qui reste donc près des racines. Ainsi blotties, elles créent un microclimat en piégeant l'air chaud, comme c'est le cas pour le silène à côle. On observe aussi, chez plusieurs plantes alpines, une certaine pubescence qui augmente la couche d'air stable au-dessus des feuilles, réduisant l'assèchement provoqué par le vent. Que d'accomplissements pour de si petites plantes! L'Alpinum est la scène de leur odyssée, où chaque parcours est aussi spectaculaire qu'instructif. C'était L'Alpinum, un théâtre d'émerveillement, par Carole Ouellette, paru dans Quatre temps.
Le les chimpanzés aussi ont leur ménopause. Un texte de Carl Zimmer paru le 5 novembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times. Pour les biologistes, la ménopause est intrigante. Si la sélection naturelle favorise les gènes qui produisent plus de descendants, pourquoi les femmes ne restent-elles pas fertiles toute leur vie? Quel est l'avantage évolutif de vivre pendant tant d'années sans avoir d'autres petits? Le mystère n'a fait que s'épaissir lorsque les scientifiques ont cherché des signes de ménopause chez les mammifères sauvages et n'en ont trouvé de preuves manifestes que chez quelques espèces de baleines. « C'est très, très rare », affirme le primatologue Kevin Langergraber de l'Université d'État de l'Arizona. Cette rareté a conduit certains chercheurs à affirmer que la ménopause avait joué un rôle crucial dans l'évolution de l'humain. Selon eux, il s'agissait peut-être d'un élément essentiel pour élever des enfants humains, dont les gros cerveaux ont besoin de beaucoup de temps et du soutien de leurs parents pour se développer pleinement. Mais une étude publiée le 5 novembre 2023 par le professeur Langergraber et ses collègues remet en cause ce point de vue. Après des décennies d'observation dans une forêt tropicale en Ouganda, ils ont découvert que certaines femelles chimpanzés étaient également ménopausées. Susan Albert, biologiste de l'Université Duke, qui n'a pas pris part à la recherche, dit qu'une telle affirmation l'aurait naguère laissé sceptique. Elle et ses collègues ont réalisé certaines des principales études montrant que les autres primates n'ont pas de ménopause. Mais elle affirme que les données de la nouvelle étude, qui comprend des observations de femelles chimpanzés plus âgées ainsi que des mesures d'hormones dans leur urine, l'ont convaincue. « Les données sont excellentes », dit-elle. Leur analyse montre clairement qu'ils ont mis les points sur les « i » et les barres sur les « t ». Hypothèse de la grand-mère. En 1966, le biologiste évolutionniste britannique William Hamilton a émis l'hypothèse que la longue vie post-reproductive des femmes avait dû jouer un rôle important dans l'évolution humaine. D'autres scientifiques se sont par la suite appuyés sur les réflexions d'Hamilton pour concevoir des théories détaillées, dont la célèbre hypothèse de la grand-mère. Selon cette théorie, au cours de l'évolution humaine, notre espèce a acquis un cerveau beaucoup plus gros que celui des autres primates. Le cerveau des enfants se développant lentement, ils sont relativement désarmés et dépendent des adultes pour la nourriture et la protection pendant de nombreuses années. Parallèlement, à mesure que les femmes vieillissent, donner naissance et élever des enfants devient plus dangereux, tant pour elles-mêmes que pour leur progéniture. Au lieu de prendre ce risque, elles pourraient consacrer leurs dernières années à l'éducation de leurs petits-enfants. L'hypothèse de la grand-mère a été étayée par certaines études portant sur des femmes vivant dans des villages agricoles ou dans des groupes de chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes, les enfants qui reçoivent de la nourriture et des soins supplémentaires de la part de leur grand-mère ont plus de chances de survivre que ceux qui n'en reçoivent pas. Nous effectuons des transferts importants à la génération suivante et à celle d'après, explique Mme Albert. Depuis plusieurs années, cependant, M. Langergraber et ses collègues remettent en question cette théorie. Depuis 1995, ils observent, avec d'autres, la communauté de chimpanzés dite de Ngogo en Ouganda. Ils ont remarqué qu'un certain nombre de femelles chimpanzés âgées et en bonne santé ne donnaient plus naissance à des petits. Une femelle nommée Garbo, par exemple, l'une des vedettes de la série Chimp Empire sur Netflix, est aujourd'hui âgée de 67 ans. Sa dernière grossesse connue remonte à l'âge de 38 ans. Brian Wood, anthropologue évolutionniste à l'Université de Californie à Los Angeles, a effectué une analyse statistique des données recueillies auprès de 185 femelles Ngogo et a constaté qu'un nombre important d'entre elles avaient vécu longtemps après leur dernière grossesse connue. Jacob Negri, alors étudiant de cycle supérieur à l'Université de Boston, a ensuite recueilli l'urine de chimpanzés jeunes et vieux. Parfois, il la recueillait en plaçant des feuilles de plastique sous les arbres où il dormait. Dans d'autres cas, il la recueillait sur des feuilles. Plus tard, Melissa Emery Thompson a étudié l'urine dans son laboratoire de l'Université du Nouveau-Mexique en mesurant l'estrogène et d'autres hormones dans les échantillons. Les chercheurs ont constaté que les niveaux d'hormones évoluaient au cours de la vie des femelles chimpanzés de la même manière que chez les humains. Je pense qu'il est évident que ces femelles vivent longtemps après avoir cessé de se reproduire, dit le biologiste évolutionniste Michael Kent de l'Université d'Exeter, qui n'a pas participé à la nouvelle étude. Les baleines. L'hypothèse de la grand-mère n'explique pas comment les chimpanzés ont pu évoluer vers la ménopause. Avec un cerveau relativement petit, les bébés chimpanzés ne sont pas aussi dépendants de leurs parents que les enfants humains. De plus, M. Langer-Graeber et ses collègues n'ont pas observé que Garbo ou d'autres femelles plus âgées fournissaient de la nourriture supplémentaire à leurs petits-enfants. Pour trouver d'autres explications évolutives à la ménopause chez les chimpanzés, M. Langer-Graeber et ses collègues se tournent vers les baleines. Chez de nombreuses espèces de baleines sauvages, les femelles deviennent moins fertiles avec l'âge. Mais jusqu'à présent, seules 5 espèces de baleines présentaient les signes distinctifs de la ménopause, définis comme un arrêt brutal des années de reproduction bien avant la fin de la vie. Des études sur les orques ont révélé que la progéniture des femelles âgées a moins de chances de survivre que celle des femelles plus jeunes. Les femelles âgées sont perdantes lorsqu'elles se reproduisent en même temps que les femelles plus jeunes d'un même groupe, a déclaré M. Kant, qui a dirigé une partie des recherches. Il semble que les femelles baleines entrent en conflit, peut-être pour la nourriture. La ménopause chez les orques pourrait leur permettre de consacrer leurs efforts à aider leur groupe à rester en vie, plutôt que de faire plus de petits. M. Kant et ses collègues ont constaté que les femelles âgées conduisaient souvent leurs congénères lors de longs voyages vers les terrains de chasse, s'appuyant peut-être sur des souvenirs remontant à plusieurs décennies. M. Langer-Graeber a émis l'hypothèse que la ménopause pourrait avoir évolué de la même manière chez les singes à petit cerveau. Plus tard, lorsque nos ancêtres ont développé de gros cerveaux et des petits sans défense, les avantages de l'aide des grands-mères ont pu favoriser encore plus la ménopause. Il s'agit probablement d'une histoire à causes multiples, pense M. Langer-Graeber. C'était « Les chimpanzés aussi ont leur ménopause », un texte de Carl Zimmer paru le 5 novembre 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times.
Les queers d'un bord, les hétéros si de l'autre. Une chronique signée Samuel Larochelle parue le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue. Je refuse de construire des murs autour d'un concept. Je ne veux pas vivre dans un monde où l'on imagine que le mariage est un concept qui devrait rester dans la cour des hétéros, où l'on prétend que la drague devrait être réservée aux queers, et où les codes esthétiques propulsés par les communautés arc-en-ciel ne devraient pas être adoptés par le reste de l'humanité. Les personnes qui voient les choses en noir et blanc me font faire de l'eczéma. Celles qui fabriquent des petites boîtes dans lesquelles enfermer des phénomènes me découragent. En toute naïveté, je croyais que la tendance à tout placer dans une case allait diminuer avec l'ouverture des mentalités, mais la vie semble me démontrer le contraire. La première fois que j'ai identifié ce réflexe, c'est lorsque j'ai entendu plusieurs personnes LGBTQ+, dire que le mariage devrait rester une affaire de straight. Faux. La véritable première fois que j'ai senti que des petites cases servaient à définir les gens, c'est quand j'ai pris ma première respiration, un certain 10 juin, il y a une trentaine d'années, quand mes cellules de poupon ont compris ce qu'on attendait des garçons et des filles, ce qu'on leur réservait et ce qu'on soustrayait à leur vie, ce qu'on imaginait pour leurs chemins amoureux, ce qu'on dessinait sur la trajectoire de leur avenir professionnel en fonction de leurs résultats scolaires, ce qu'on devait avoir accompli à tel âge, diplôme, boulot, couple, propriété, bébé, chien, et tout ce que la société se plaisait à classer pour se calmer l'anxiété. J'ai commencé à m'insurger davantage quand j'ai entendu des queers affirmer qu'on devrait laisser le concept du mariage aux hétéros-ci. Pas dans le sens de rendre le mariage inaccessible ou illégal pour les queers, mais dans le sens de « c'est une affaire de straight, puis ça devrait rester une affaire de straight ». Je comprends que le mariage puisse être vu comme un carcan ou un paquet de troubles et qu'on ne veuille pas y adhérer. Je vois pourquoi les personnes queers, qui ont eu le courage de faire éclater les frontières de l'orientation sexuelle et du genre, se permettent de remettre en question les possibilités romantiques et relationnelles. Néanmoins, j'en reviens à mon amour des nuances. Peut-on simplement se réjouir que les personnes LGBTQ+, qui désirent se marier, puissent le faire, sans les juger et sans prétendre qu'elles se fondent dans le moule hétéro et qu'elles n'ont aucun libre arbitre? N'y a-t-il pas un espace dans nos esprits pour envisager que la symbolique et l'engagement sous-entendu dans le mariage puissent intéresser certaines queers sans les pointer du doigt en disant qu'ils et elles s'aplatissent devant l'institution hétéro qui nous dicte comment vivre? Dans un même ordre d'idées, à quoi ça sert de véhiculer l'idée que la drague doit être réservée aux personnes LGBTQ+, voire exclusivement aux hommes gays, comme certaines adeptes le prétendent encore? Bien sûr que le plaisir de personnifier un genre différent du nôtre a connu ses lettres de noblesse grâce aux queers. Bien sûr que les dragues sont au cœur de la naissance du mouvement militant pour les droits de nos communautés. Bien sûr que les êtres les plus en vue de cette discipline ont longtemps, et encore souvent, été des hommes gays, cisgenres, qui jouaient avec les archétypes associés au féminin. Mais il faut vivre sous une roche pour ne pas avoir entendu parler des personnes trans qui font de la drague depuis des décennies, des drag kings, des femmes qui se transforment en drag queens et des hétérosexuels qui ont envie de vivre l'expérience à leur tour. Si la drague est un art qu'on ne cesse de présenter pour son pouvoir de libération, d'expression et sa capacité à propulser la confiance de ses artistes, pourquoi réserver le tout aux communautés queers? Est-ce parce que l'envie de jouer avec les codes de genre a généré tant de jugements, d'insultes et de violences de la part des hétéros cis qu'on ne peut imaginer que des personnes issues de ce même groupe veuillent s'amuser dans le même carré de sable? Ou parce que ces mêmes hétéros cis nous ont si longtemps ostracisés que nous voulons leur rendre l'appareil? Avons-nous vraiment envie de devenir une pâle copie de nos bourreaux? Si vous avez répondu oui à la dernière question, cela signifie-t-il que seules les personnes queers peuvent jouer avec les codes du genre, que les Harry Styles et les G du Temple de ce monde ne devraient pas être célébrés pour leur choix moins traditionnellement masculin et qu'une certaine esthétique pourrait nous être réservée? Ou ne devrait-on pas rappeler aux responsables des magazines, des émissions de télé et des campagnes de publicité que le jupon de leur ignorance dépasse quand ils et elles célèbrent d'abord les hétéros cis qui font preuve d'audace esthétique en floutant les codes du genre, alors qu'ils et elles ont si peu souligné les queers qui l'ont fait bien avant? Ne devrait-on pas nous élever au-dessus de la mêlée en refusant de reproduire les comportements ghettoisants qui nous ont tant fait souffrir? C'était « Les queers d'un bord, les hétérosis de l'autre », une chronique signée Samuel Larochelle, parue le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue.
Comment mieux anticiper les grands séismes? Par Valentin Rakowski, paru dans Pour la science, août 2022. Un réseau de neurones artificiels en décèle la trace sans les très faibles perturbations du champ de gravité terrestre. Le 11 mars 2011, dans l'est du Japon, les sismomètres ne savaient plus où donner de l'aiguille. La magnitude du tremblement de terre de Tohoku, dont l'épicentre se situait au large de l'archipel, était trop élevée pour les appareils de mesure qui ont saturé. Sa magnitude a alors été estimée à 8. Le tsunami qui en a résulté, bien plus puissant qu'attendu, a provoqué la mort et la disparition de plus de 18 000 personnes et est à l'origine de l'accident nucléaire de Fukushima. Les méthodes d'estimation actuelles reposent en effet sur l'analyse des ondes sismiques. Or, elle est imprécise pour des séismes de si forte ampleur. Andrea Licciardi et Quentin Bléteri de l'Université Côte d'Azur et leurs collègues proposent d'exploiter, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, d'autres signaux plus rapides et plus précis pour anticiper les très grands séismes. Les signaux PEGS pour Prompt Elastogravity Signals ou signaux d'élastogravité. Avec les méthodes actuelles fondées sur les ondes sismiques, des vibrations qui déforment le sol en s'y propageant, les autorités disposent d'un délai de quelques minutes ou dizaines de minutes pour anticiper un potentiel tsunami. Mais pour des séismes de puissance supérieure à 8, ceux capables de provoquer des tsunamis, l'évaluation est entachée d'une large marge d'erreur. Dans le cas du séisme de Tohoku, les vagues ont atteint 30 mètres de haut par endroit, bien plus que les 3 mètres anticipés si le séisme avait été de magnitude 8. En fondant les estimations de magnitude sur les PEGS, il devient possible de gagner non seulement en précision, mais aussi en rapidité. Quand une grande masse de roches est déplacée, comme lors d'un grand séisme, le champ de gravité terrestre est modifié localement selon la nouvelle répartition de la masse rocheuse. Cette variation s'opère à la vitesse de la lumière, donc bien plus rapidement qu'une onde sismique. Elle apparaît faiblement sur les mesures des sismomètres. Cela présente l'avantage de ne pas les saturer, même pour de grands séismes, mais l'inconvénient d'une observation plus difficile parmi le bruit habituel mesuré par les appareils, du fait de la très faible amplitude de la variation. 9,1. L'épicentre du séisme du 11 mars 2011 était situé à 130 km des côtes de la région de Tohoku, au Japon. Le système de surveillance a d'abord estimé que la magnitude était de 8,1. Des analyses ultérieures ont corrigé cette valeur et l'ont portée à 9,1. Les chercheurs ont mis au point un algorithme d'intelligence artificielle capable d'identifier ces PEGS dans les données des sismomètres. Ce programme a été entraîné sur une base de données synthétiques. Les simulations de 350 000 séismes virtuels le long de la faille de subduction au large du Japon, zone à forte activité et bien quadrillée par des stations sismiques. Testé sur les données du séisme de Tohoku, ce réseau de neurones s'est révélé capable d'estimer la croissance du séisme et sa magnitude exacte. cette approche complémentaire, mieux adaptée à l'étude des phénomènes sismiques de grande ampleur que les méthodes classiques, rendrait beaucoup plus efficaces et fiables les procédures d'alerte et de prévention des séismes et des tsunamis si elle était mise en œuvre. C'était « Comment mieux anticiper les grands séismes » par Valentin Rakowski, paru dans « Pour la science » ou 2022.
Devrait-on éviter de faire de l'exercice par grande chaleur? Un texte de Jacqueline Simoneau paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge. Partant de canicule, on se demande si c'est une bonne idée de faire de l'exercice. En réalité, ce n'est pas mal, mais il faut être prudent pour éviter certains dangers. Selon le docteur Luc Degary, médecin du sport, l'insolation est la conséquence la plus grave d'une exposition à la chaleur. La déshydratation en est une autre. La bonne nouvelle, c'est que le corps peut s'acclimater à la chaleur. Mais d'abord, il faut considérer sa condition physique et sa tolérance aux températures chaudes, selon le docteur Degary. Les gens souffrant de maladies chroniques mal contrôlées ou d'intolérance à la chaleur devraient plutôt s'entraîner dans un endroit climatisé lors des canicules, par exemple en faisant de la marche rapide au centre commercial. Sinon, il est possible d'accoutumer son corps aux températures élevées en augmentant graduellement l'intensité de l'effort et la durée de l'activité. Après quelques jours, ce sera déjà plus facile. Cela dit, plus une personne est en forme et active à l'extérieur, plus l'adaptation sera rapide. En période de canicule, il faut aussi planifier ses activités tôt le matin et porter des vêtements adéquats. Et bien sûr, s'hydrater de façon optimale avant, pendant et après l'exercice avec de l'eau ou des boissons sportives. Bref, il y a peu de danger à faire de l'exercice par temps chaud, à condition de bien suivre les recommandations. C'était « Devrait-on éviter de faire de l'exercice par grande chaleur? » Un texte de Jacqueline Simoneau paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge.